donc chapitre 5 et le verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Et recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, il est évident pour nous tous que la paix est un trésor qui est difficile à obtenir et difficile à garder. En Europe, nous avons profité d'une sorte de paix depuis la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y a eu la tension de la guerre froide et aussi la guerre en ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, on s'habitue à un terrorisme qui n'est pas très loin. Nos banlieues de l'Ouest sont touchées. Aux portes de l'Europe, la guerre en Syrie est franchement horrible. En Asie, un dictateur joue son va-tout en s'affrontant aux États-Unis, au monde. À la rentrée, on s'attend à des mouvements sociaux, à des grèves, à des conflits sociaux. On est d'accord pour réformer le pays jusqu'à ce qu'il faille le réformer. Dans une église, la paix n'est pas toujours au rendez-vous. Parce qu'il peut y avoir parfois des tensions, des désaccords, des conflits personnels. Si vous êtes un chrétien de longue date, je suis sûr que vous pourriez partager quelques expériences malheureuses. Et oui, c'est fort regrettable, mais force est de constater que nous sommes après tout des pécheurs, des êtres humains pécheurs, fragiles, sensibles. Mais on ne doit pas nous en contenter. Nous sommes appelés à vivre mieux en famille, la famille de l'Église. Et dans le passage de ce matin, on va voir, on le voit au verset 23, que notre Dieu est un Dieu de paix. C'est qui il est? Il est un Dieu de paix, dans son être et dans son faire. Et on a vu il y a quelques semaines que Paul écrit cette lettre, donc c'était le verset 1 du chapitre 1. Il écrit cette lettre à l'Église des Thessaloniciens, cette Église qui est, je cite, en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qui nous caractérise, nous aussi. Nous sommes l'Église de la Garenne en Dieu le Père, dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce Dieu qui est le Dieu de la paix. Et ça, c'est sans doute peut-être le leitmotiv, l'idée clé de ce passage, cette paix de Dieu. On va parcourir ce passage en deux temps. Une prédication ce matin et une deuxième la semaine prochaine, donc dans le même passage. Et ce matin, on va entendre l'appel de Dieu de vivre, à vivre une paix tangible entre nous. Et la semaine prochaine, dans un deuxième temps, on va voir que cette paix dépend d'une relation vivante avec ce Dieu de paix. On va commencer avec cette paix tangible entre nous et on va voir ça en deux temps. D'abord, on va voir une paix entre l'Église et ses responsables. Ensuite, une paix qui est constructive et en faveur de tous. Dans ce passage, l'apôtre Paul veut nous parler de cette paix à laquelle nous sommes tous appelés. Et cette paix naît et se nourrit d'une sainteté bien pratique, bien terre à terre. Même si on va voir la semaine prochaine comment cette relation vivante de paix avec le Dieu de paix est le carburant quotidien de cette paix tangible entre nous, je vous invite à jeter un coup d'œil au verset précédent, ce qu'on a vu la semaine dernière, parce qu'on voit là une motivation fondamentale pour cette paix tangible entre nous. C'est notre espérance. C'est ça le thème de ces dernières semaines. Aucune paix entre nous n'est possible si on n'est pas nourri, si on n'est pas animé par cette espérance, celle que nous avons en Jésus-Christ. Donc versets 9 à 11. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, donc c'est-à-dire la mort, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc si on va vivre cette paix tangible, il va falloir qu'on s'encourage dans cette espérance. Et on va voir la semaine prochaine comment mettre cette espérance dans nos cœurs de manière concrète. Mais on commence avec les premiers versets de notre passage et cette paix entre l'Église et ses responsables. Paul commence cette dernière partie de sa lettre où il veut nous donner beaucoup d'instructions pratiques en exhortant les lecteurs, ses lecteurs, c'est ce qu'on voit au verset 12 et 13, à non seulement respecter leurs responsables dans l'Église, mais il les appelle aussi à les tenir en haute estime, dans l'amour. Il s'agit d'une relation avec les responsables d'Église marquée par la paix de Dieu. Et ça, c'est essentiel si l'Église va refléter le caractère de Dieu lui-même, cette paix. Si l'Église va vivre en paix. Alors, si Paul doit les y exhorter, c'est parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours quelque chose de naturel de respecter l'autorité. On est tous marqués à des degrés différents, sans doute, par un mauvais rapport à l'autorité. Ça fait partie de ce que c'est le péché. Et on est tous pécheurs. Au commencement, Adam et Ève se sont rebellés contre la bonne, juste et bienveillante loi de Dieu, autorité de Dieu. Ils voulaient se hisser au même niveau que Dieu, dans la société de manière plus large, comme dans l'Église, de manière naturelle malheureusement. On se méfie un peu de l'autorité. Mais si on l'accepte au bout des lèvres parfois, on l'accepte parce qu'on se rend bien compte que bah, il nous la faut. Si on ne l'a pas, tout va à volo. Même si, comme la réforme protestante a bien mis en valeur, nous sommes tous prêtres dans le sens où nous pouvons tous annoncer les bienfaits de Dieu. Dieu a également institué dans l'Église une autorité déléguée. Limitée, déléguée, mais quand même elle est là. Il a donné le rôle de responsable à certains. On les appelle le plus souvent anciens ou pasteurs. Et ici, on voit cette exhortation à respecter cette autorité déléguée. Ce n'est pas le titre qui compte, ancien, pasteur, mais on voit dans ce passage que c'est bien la tâche, le travail. C'est vrai, les êtres humains aiment les titres. Dans le monde des grandes entreprises, il y a énormément de directeurs et de managers. Et sur les cartes de visite des chefs de section, par exemple, ou même sur les cartes de visite de jeunes diplômés, on voit souvent ces titres. Moi, je me souviens quand j'ai quitté la fac et j'ai commencé à travailler dans la banque, j'étais tout de suite un management associate, donc associé au management. On aime ces titres et on gonfle un peu ces titres. On aime ça, ça nous flatte. Et parfois dans l'Église, il y en a qui font ça aussi. Il y a un engouement pour les titres pasteurs, parfois dans certaines églises évêques et ainsi de suite. Mais Paul met en avant ici, verset 12, le travail, la tâche. Ceux qui travaillent. Ceux qui dirigent dans le Seigneur, ceux qui avertissent. Voici un responsable, un ancien, un pasteur ou évêque, voici ce qu'il fait. Il s'agit de ceux qui se donnent de la peine dans l'enseignement. Ils travaillent dur. Ils se donnent dans le travail difficile de l'étude du texte, l'étude de la parole, la réflexion, l'application, l'explication. Mais ils ne sont pas simplement des docteurs, mais ceux qui dirigent dans le Seigneur. Ça veut dire qu'ils s'impliquent dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur veut que son Église lui fasse confiance, écoute sa parole, le suive, lui obéisse, grandisse en sainteté, le proclame à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ça nécessite un amour pour le peuple de Dieu et aussi pour le Seigneur lui-même. Ça nécessite un engagement personnel de son être, de son cœur pour cette Église. Et enfin, Paul parle d'avertissement. Le responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il avertit, il reprend. Et ça, il s'agit d'un amour dur. Comme l'amour d'un parent qui ne permet pas à son enfant de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. C'est souvent une tâche ingrate pour un responsable d'église. Il ne le fera pas s'il cherche à plaire à lui-même, s'il est simplement soucieux de son propre confort. Il ne le fera que s'il aime le troupeau et s'il est soucieux de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que Paul nous exhorte à avoir de l'estime, avoir de l'amour pour ceux qui dirigent de cette façon-là, pour ceux qui font ce travail-là, pas simplement pour ceux qui aiment les titres, mais pour ceux qui font ce travail-là. Les responsables ont besoin d'encouragement et d'amour. Et dans un sens, nous avons tous besoin de cette estime et de cet amour pour les responsables d'église, pour que notre église soit en paix. C'est une condition sine qua non pour cette paix dans l'église, cette paix qui caractérise Dieu lui-même. Concrètement, je pense qu'on peut encourager les responsables, même de cette église, en les encourageant quand ils se donnent du mal dans l'enseignement, dans la préparation d'une prédication, quand ils nous dirigent selon le Seigneur, quand ils le font fidèlement pour qu'on grandisse vraiment dans la foi, dans la sainteté. Et même quand ils avertissent, quand ils reprennent avec un amour sincère. Quand vous les voyez à l'œuvre, en train de faire ces choses-là, pourquoi ne pas dire merci? Et l'application principale, c'est d'accepter cette direction, ce ministère, avec confiance, avec respect. Notre tentation, c'est de singer un peu la soi-disant liberté de notre démocratie, où on critique très rapidement, où on a la liberté de critiquer. Dans un sens, c'est une bonne chose qu'on a cette liberté, mais on n'est pas appelé à imiter ça dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on doive devenir des béni-oui-oui qui ne pensent plus. Ça n'aide personne non plus. Ça, c'est la mentalité d'une secte qui ne supporte pas la discussion ou la remise en cause. Mais il y a une façon de faire tout ça. Il y a une bonne façon de faire tout ça. Avec cette estime, avec cet amour, avec ce respect. Priez régulièrement aussi pour vos responsables, pour qu'ils soient effectivement de plus en plus fidèles dans l'enseignement, dans ce travail, dans ce suivi pastoral. On est loin d'être parfaits. On est bien conscient de ne pas être à la hauteur de la tâche, très conscient de nos faiblesses, des progrès que nous avons à faire. Et donc concrètement, on a besoin de votre aide, de cette estime, de cet amour. Et il y va de la paix dans l'Église. Il s'agit de notre sainteté pratique devant Dieu. Nous savons que la volonté de Dieu, c'est notre sainteté. C'est ce qu'on a vu dans cette lettre. C'est ce qu'il souhaite pour nos vies. Il veut qu'on vive ça. Et notre manière de nous comporter face à ceux qui font ce travail, face à ceux à qui Dieu a donné ce travail à faire, est finalement un reflet de notre propre attitude envers le Seigneur lui-même. Ça donne à penser. Ensuite, l'apôtre Paul, dans les versets 14 et 15, parle de notre rapport les uns aux autres, de manière très large dans l'Église. Et on voit que cette exhortation est quand même d'une beauté extraordinaire. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. C'est un appel à l'action, n'est-ce pas? C'est un appel à des serviteurs les uns des autres. Dans une église, comme d'autres passages nous l'enseignent, nous avons besoin d'exercer les dons que le Seigneur nous a donnés à chacun. On a chacun des dons différents. On parle parfois de nos ministères respectifs. L'un va jouer de la musique. Un autre va enseigner à l'école du dimanche. Un autre va exercer un ministère parmi les jeunes. Et tout ça est très important. Il nous faut ça. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle du ministère aussi, le ministère ordinaire. Ce ministère ordinaire, mais ô combien essentiel dans l'Église. Et on est tous appelés à l'exercer. Ce ministère nécessite de l'humilité et le fait d'être centré sur autrui, sur les besoins d'autrui. Nous sommes appelés à nous donner pour nos frères et sœurs. Oui, être l'Église n'est pas juste l'affaire du dimanche matin, c'est ce qu'on dit souvent, et c'est vrai. C'est une affaire de toute la vie, et ce n'est pas moins que le dimanche matin non plus. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est la suivante. Est-ce que nous venons ici le dimanche matin pour exercer notre ministère? Ce ministère d'avertissement, ce ministère de réconfort, ce ministère de soutien, ce ministère de patience. Voici notre tâche pour le dimanche matin. Oui, pour toute la semaine aussi. Mais surtout pour le dimanche matin, quand on se rassemble. Il y a des frères et sœurs qui ont parfois besoin de votre avertissement. Moi et vous, vous avez sans doute, à des moments différents, besoin des avertissements des autres. On ne se rend pas toujours compte de notre besoin. Parfois, notre attitude fait du mal aux autres. Peut-être à nos familles, peut-être à nos proches, peut-être à Dieu lui-même. Alors le mot dans ce texte qui est mis en valeur, c'est le mot « désordre ». C'est un comportement qui met le bazar, qui refuse de travailler, par exemple, pour subvenir aux besoins de la famille, ou qui n'accepte pas l'autorité par amour, pour la paix dans l'Église, pour faire honneur à l'Évangile, pour louer le Seigneur. Il faut parfois dire des choses. Certes, avec amour, avec humilité, conscient de nos propres faiblesses. Vous savez, parfois on pourrait douter que dire ce genre de choses aille contribuer à la paix dans l'Église. On peut se dire, est-ce que ça, il ne vaut pas mieux de se taire, s'occuper de ses propres oignons? Et parfois oui, et on va voir ça dans la suite du texte, mais pas systématiquement. Parfois la paix, la vraie, s'installe quand ce qui mine la paix a été mis en valeur. Ensuite, le réconfort de ceux et celles qui sont abattus, sans doute par toutes sortes d'épreuves familiales, professionnelles, relationnelles, spirituelles, le travail, la famille, la santé, la foi. Et il y a bon nombre d'entre nous, je le sais, qui sont touchés par ce genre d'épreuves. Et je sais que vous avez besoin de réconfort. Vous passez même en ce moment par des épreuves très difficiles. Et le Seigneur lui-même le sait. Il est souverain, il est même maître de ce qui vous arrive. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, il vous a donné des frères et sœurs pour vous réconforter. C'est le moyen qu'il a donné. Il a donné l'Église, il a donné des frères et sœurs justement pour votre réconfort. Ne soyez pas gênés pour partager. Vous n'êtes pas un fardeau pour les autres. Vous êtes un don pour l'Église. Et même vos soucis sont un don pour les Églises, pour l'Église. Ils sont l'occasion d'exercer ce ministère. Ce ministère qui contribue à la sanctification, à la sainteté pratique de l'Église, de tous. Et venons tous ce dimanche matin pour être ceux et celles qui cherchent à réconforter nos frères et sœurs. Dieu nous a donné tous ce ministère précieux. Et c'est un honneur de pouvoir l'exercer. En l'exerçant, nous lui ressemblons. Lui qui nous a donné son Fils pour notre réconfort. Et bien sûr, notre réconfort, s'il va être un bon réconfort, va pointer vers Jésus. Va pointer vers Jésus qui est le baume dont nous avons besoin. Ce Jésus qui est mort pour nos péchés. Et qui, comme on a vu dans ce livre, il va revenir nous chercher. Il revient nous chercher pour qu'on soit avec lui à tout jamais. Soutenez le faible. Paul pense à tous ceux parmi nous qui sont moins capables que d'autres de subvenir à tous leurs propres besoins. Il pense peut-être à des personnes âgées, les handicapés, les jeunes enfants, peut-être surtout les orphelins, les malades, les veuves, les réfugiés, ceux qui ont du mal à trouver un travail ou un travail adéquat. Et voici le ministère auquel Dieu nous appelle tous pour la paix dans l'Église, pour une paix juste dans l'Église, pour faire honneur à l'Évangile, pour louer le Seigneur lui-même. Il s'agit parfois de l'aide pratique, aider avec un déménagement, faire une course en voiture, course au magasin. Peut-être il s'agit de conseils pratiques, un repas ou de l'aide financière aussi, pourquoi pas. Alors on vit dans une société où à force d'avoir délégué tout ça à l'État, ou à force d'avoir un État qui a choisi d'essayer de tout prendre en main, nous on peut être tenté de penser que ça c'est pas la tâche de l'Église, c'est pas la tâche des frères et sœurs, c'est l'État qui peut faire ça. Et on voit clairement dans ce passage que ce n'est pas le cas. Alors parfois, cette aide va passer par des conseils pour aider quelqu'un à accéder aux aides de l'État. Mais parfois, il est juste que nous prenions des choses en main nous-mêmes. Alors dans cette église, on a un diacre, Josias. Josias Ramfi, il est où en fait? Merci. Donc Josias, au fond de la salle, ouais, ou en face de moi en tout cas, qui est dédié à ce ministère spécial, en fait l'aide sociale communautaire. Et si vous avez connaissance d'une situation dans l'Église, une situation de détresse sociale, n'hésitez pas à mettre cette personne, ou même vous-même, en contact avec Josias. Mais en même temps, le fait que Josias se dédie un peu à son ministère ne veut pas dire que nous autres, on se lave les mains et voilà, on met tout sur le dos de Josias. Non, le texte nous appelle tous à soutenir faibles. Il y va de la paix dans l'Église, il y va de l'honneur de l'Évangile. Il s'agit de notre adoration vers Dieu, ce Dieu de la paix qui crée la paix entre nous. Paul veut nous donner tous une manière de penser où les besoins de nos frères et sœurs sont primordiaux. En quelque sorte, il veut nous donner tous une mentalité de serviteur, pas juste une mentalité de consommateur où on vient à l'Église pour consommer ou pour dire « Ah oui, quel bon enseignement » ou quelque chose de ce genre où j'aime bien les chants. On vient avec une mentalité de serviteur. Ça, c'est notre sainteté pratique. Ça, c'est une manière de vivre la paix de Dieu. De refléter son caractère. Ensuite, dans ce texte, l'apôtre Paul parle de la patience. Il parle aussi du fait de ne pas nous venger et aussi de chercher le bien de tous. Et sans doute, ces choses-là sont liées. On a vu dans ce livre que nous sommes des êtres pardonnés, adoptés. On n'est plus destiné à la colère, mais destiné à la possession de ce salut par grâce. Jésus revient nous chercher. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes pécheurs, que nous luttons avec le péché. Il nous faut cette patience, il nous faut cet amour qui patiente, cet amour qui couvre une multitude de fautes. Parce que oui, parfois il vaut mieux se taire, ne pas reprendre, ne pas avertir et patienter. Et nous souvenir de combien Dieu a été patient envers nous et continue d'être patient envers nous. Pensez à toutes nos faiblesses, toute notre désobéissance, tous nos péchés. On n'arrive pas à tout surmonter, à nos habitudes énervantes pour les autres, notre égoïsme parfois si aveuglé, on ne se rend même pas compte. Et Dieu patiente avec nous. Dieu nous aime, il nous a adoptés en Jésus-Christ, on est ses enfants. Il n'est pas en train de nous critiquer, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à vivre cette même patience entre nous en Église. Et bien des choses à l'Église qui pourraient être mieux faites. Chaque aspect de notre culte, sans doute, l'école dimanche, les prédications, les chants, le choix des chants, l'organisation dans l'Église, on peut faire des progrès. On peut viser plus haut. Mais en même temps, on a à prendre cet amour patient, on patiente. C'est une patience qui ne donne pas libre cours à nos critiques égoïstes, à nos préférences personnelles. Quand on se sent lésé, ce n'est pas la vengeance qui va régler quoi que ce soit. En fait, nous sommes appelés plutôt à chercher le bien de ceux qui nous font du tort. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. En fait, l'apôtre Paul ne fait qu'appliquer l'enseignement de Jésus. Vous pensez au sermon sur la montagne, Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cet enseignement s'applique à tous les cas de figure, dans l'Église et en dehors de l'Église. Paul l'applique en particulier dans le cadre de l'Église, mais on voit bien que ça déborde. On va exercer cette patience qui ne se venge pas même demain au travail, même en famille. Alors tout ça est bien difficile, n'est-ce pas? Avoir en estime ce que le Seigneur a donné à l'Église de travailler avec peine dans le Seigneur. Avoir cette mentalité de serviteur où on vient le dimanche pour être au service des autres, parfois par l'avertissement, souvent par le réconfort, toujours par le soutien des faibles. Avoir cette patience qui ne se venge pas, qui cherche à faire le bien même à ceux qui nous font du mal. Comment faire face à tout ça? Comment mettre en pratique toutes ces choses? Si on regarde en arrière ce qu'on a fait au début, on a vu que si on va faire ça, il faut que cette espérance soit bien ancrée dans nos cœurs. Et ça, dans un sens, c'est un des buts primordiaux de cette lettre. Paul veut que cette espérance soit bien ancrée dans nos cœurs. Jésus revient nous chercher. Jésus reviendra nous chercher. On sera délivré de la colère à venir. Comme il dit ailleurs, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de son amour. Et il faut que nos yeux soient fixés sur ce but-là, sur ce jour qui vient, quand il revient, ce jour, comme on a dit la semaine dernière, ce jour de la bonne surprise. Christ revient nous chercher. Il nous a choisis. On sera avec lui. Et cette espérance-là, c'est elle qui va nous donner la motivation de lui plaire, de chercher à lui plaire. Il faut qu'on médite là-dessus. Il faut qu'elle soit dans nos cœurs. Et la semaine prochaine, on va voir comment Paul nous invite à faire justement ça. Comment alimenter cette espérance. Comment faire en sorte que cette espérance soit vraiment le carburant qui alimente, qui est le moteur de nos vies chrétiennes, de cette patience, de cet amour. On va voir dans la suite du passage que ça passe par la joie. Le fait de se réjouir dans le Seigneur. Ça passe par la prière. Ça passe aussi par la reconnaissance envers Dieu. Et aussi par l'accueil de sa parole. Et on va voir aussi au verset 24 que c'est lui finalement qui le fera. C'est son œuvre. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Mais en attendant la semaine prochaine, on va prier et on va demander à Dieu de nous aider à méditer ses paroles, à voir où nous avons besoin, peut-être chacun personnellement, de voir quel est le pain que Dieu nous a donné de faire, ce pain sur la planche. Peut-être là où nous avons besoin de changer. Peut-être il y a quelque chose qui doit changer en nous si on va mettre tout ça en pratique. Une attitude à changer. Peut-être il y a une décision concrète à prendre. Quelque chose à faire. Et on va lui demander aussi d'ancrer cette espérance dans nos cœurs. Cette espérance qui est le moteur fondamental de cette vie nouvelle en Christ. Prions. Merci notre bon Père Céleste de ce que tu nous donnes un lendemain. Tu nous donnes un avenir. Nous sommes un peuple d'espérance. Et ce n'est pas par ce que nous avons fait. Ce n'est pas par ce que nous allons faire. C'est simplement parce que ton Fils a pris notre place. Il a pris notre condamnation à notre place pour que nous puissions, nous n'ayons pas à la subir, pour que nous puissions être à toi, dans ta présence, pour que nous puissions t'appartenir. Et notre bon Père Céleste, nous voulons te demander de nous aider à y répondre en cherchant à te plaire, en cherchant à refléter cette paix que tu aimes. Tu aimes la paix. Tu es un Dieu de paix et tu veux qu'on vive dans la paix entre nous et aussi même demain au travail, en famille, dans la société plus large. Père, puis cette espérance que tu nous as donnée, cette espérance d'être avec toi, le Dieu de la paix, nous pousser cette semaine à vivre cette paix entre nous. Change-nous là où nous avons besoin d'être changés. Donne-nous cette mentalité qui aime nos responsables, qui aime ceux qui sont dans le besoin, qui avertissent, qui réconfortent, qui soutiennent. Naturellement, on est égoïste. On cherche à combler nos propres besoins. On vient parfois même à l'église juste pour notre bonheur, pour simplement nous faire du bien. Donne-nous cette mentalité tournée vers les autres pour que nous devenions de plus en plus une église qui t'honore, qui te loue et qui fait honneur à l'évangile pour ceux qui nous regardent. Et nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.